Radio Kapi.
Oh, Kapi.
En direct de Kinshasa, il est 12h pile. Voici un nouveau journal sur Radio Kapi. On en sait un peu plus sur les raisons de l'empêchement hier de deux ministres, Nene Nkulu et Willy Kitobo, d'aller en mission de service à l'intérieur du pays. La présidence affirme qu'ils n'avaient pas respecté les procédures légales en la matière. Montée de la criminalité depuis plus de deux semaines à Beni, au Nord Kivu, la société civile parle de la conséquence de l'évasion des détenus de la prison de Kangwaï. La structure plaide pour la sécurité de la population et ses biens. Notre invité ce midi, c'est le numéro 2 de la MONUSCO chargé des opérations à l'issue d'une mission à Pinga. David Grisly pense que pour restaurer la stabilité de la région de territoire de Walikale, il faut une conjugaison d'efforts militaires, humanitaires et de développement. Madame, messieurs, bonjour au micro. Pascal Massirika, Jean-Noël Mokondo et sur les manettes. Les deux ministres empêchés hier mardi d'aller en mission de service à l'intérieur du pays n'avaient pas respecté les procédures légales en la matière. La précision émane de la présidente de la République. Pour rappel, les ministres Nene Nkulu de l'Emploi, Travail et Prévention sociale et son collègue Willy Kitobo des Mines avaient été empêchés hier à l'aéroport de Ndjili de quitter la capitale congolaise pour se rendre en province. Une affaire qui a été diversement commentée, notamment sur les réseaux sociaux. Qu'en est-il, Jacques-Yves Molima?
D'après les sources de la présidence contactée par Radio Kapi, l'ordonnance loi du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement est claire en cette matière. Elle stipule que tout déplacement des membres du gouvernement, y compris les premiers ministres, doit être signalé au préalable à la présidence de la République. L'article 34, alinéa 2, stipule que les missions des autres membres du gouvernement sont subordonnées à l'obtention d'un ordre de mission signé par le premier ministre. Et à l'alinéa 6, il est spécifié que le président de la République est informé avant le début de la mission ou du déplacement privé des autres membres du gouvernement. Notre source à la présidence affirme qu'en ce qui concerne le déplacement de ces deux ministres, la présidence de la République n'étant pas informée, les services de la DGM étaient en droit de faire respecter ces dispositions en empêchant les deux membres du gouvernement de quitter Kinshasa. Il n'y a pas matière à polémiquer là-dessus ou à politiser cette affaire, renchérit notre source. Rappelons que les ministres Nene Nkulu et Willy Kitobo devraient effectuer une mission de service respectivement à Kalemi et à Kisangani via Goma.
Merci Jacques-Yves Moulima pour ces précisions. En plus bref, sachez que le directeur général de la Régie des voies aériennes, RVA, a été placé en détention préventive hier soir à la prison centrale de Makala, ici à Kinshasa. Selon nos sources proches du parquet général, près la cour d'appel de Kinshasa-Matete qui le poursuit, Bengele Abdallah est suspecté d'avoir détourné environ 15 millions de dollars américains destinés au paiement des salariés retraités de la RVA. D'autres griefs, nous dit-on, pourraient s'ajouter lors de l'instruction pré-juridictionnelle. Au Sud-Kivu, pendant ces temps, le ministre provincial de l'Intérieur et son collègue de la Santé publique ont été interpellés hier mardi par quelques députés provinciaux. Le ministre de l'Intérieur, Luabangiloa Singabo, a été entendu sur ses responsabilités dans l'installation du bourgmestre de la commune rurale de Minembwe et son collègue de la Santé publique sur la gestion de la pandémie du coronavirus dans la province. Reportage à Bukavu de Jean Kassami.
Les élus provinciaux du Sud Kivu recommandent au ministre de l'Intérieur de procéder à l'annulation par écrit du procès-verbal qui avait installé Mukiza Zabine Chagadi, bourgmestre de la commune rurale de Minembwe. Le ministre Luabangiloa Singabo a reconnu avoir procédé à la lecture du dit procès-verbal parce que la loi autorise la création de nouvelles communes, 27 pour le Sud Kivu, y compris celle de Minembwe. Une dizaine de députés se sont succédés au perchoir avec des questions adressées au ministre interpellé.
Notre initiative, monsieur, c'est d'annuler le procès verbal. Faire tout moyen possible pour nous présenter l'acte d'annulation, pas la lettre d'information.
Plusieurs questions ont consisté à savoir si le bourgmestre de Minembwe fournit réellement les rapports sur son entité à l'administration provinciale. Dans l'affirmatif, les députés s'interrogent alors en quelle qualité une autorité communale qui n'était pas encore installée officiellement pourrait soumettre un rapport qui soit recevable par la hiérarchie. Luabangiloa Singabo a sollicité un délai de 3 jours avant de venir répondre aux préoccupations formulées par les élus provinciaux. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Et puis, les responsables des entités territoriales décentralisées sont depuis 3 jours en formation de renforcement de capacités. Ils apprennent comment gérer la redevance minière. Cette rencontre se tient à Kolwezi, dans la province du Lualaba. Elle réunit certains responsables des entités territoriales décentralisées impactées par l'exploitation minière du Haut-Katanga, du Nord et du Sud Kivu et du Lualaba. Organisée par le gouvernement provincial du Lualaba, en collaboration avec la coopération technique allemande, cette formation accueille aussi les membres de la société civile. Explication de Jean Ngandou.
Pour les participants, cette formation tombe à point nommé. Et pour cause, plusieurs personnes ont dénoncé la mauvaise gestion de la redevance que les entreprises minières payent aux entités dans lesquelles elles sont implantées. Surtout que la plupart des bénéficiaires n'ont pas été formés en cette matière. Pour le bourgmestre de la commune de Kampemba, qui est un des participants, cette formation va apporter un plus dans la manière de gérer ces fonds en mettant les communautés au centre de toute action. Eric Tutewalomba.
Les bénéficiaires de cette taxe, c'est la population. L'argent de redevance minière, ce n'est pas l'argent de nous, les autorités locales, de gérer ça en privé. On doit beaucoup travailler pour que la population trouve son compte.
La société civile, qui se trouve parmi ceux qui ont décrié la gestion opaque de ces fonds, salue cette initiative et permet aux participants d'établir sur cette question qui a longtemps divisé la société civile et les gestionnaires de ces fonds. Mike Lemeki, de la nouvelle société civile du Lualaba.
C'est un rendez-vous assez important. Ça nous permet aussi de briser la glace qui existe entre la société civile et les animateurs des esprits. Nous voudrons parler le même langage pour qu'enfin nous puissions accompagner ces ETD à bien gérer les fonds qui leur sont donnés pour développer leur volonté.
Commencée le lundi dernier, cette formation va se clôturer le vendredi prochain. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
On enchaîne avec le Nord Kivu où la criminalité est en hausse depuis plus de 2 semaines dans la ville de Beni. Des bandits armés cambriolent dans des maisons et des églises. Beaucoup parlent des conséquences de l'évasion des détenus de la prison centrale de Kangwayi. La société civile locale appelle le conseil urbain de sécurité à redoubler d'efforts pour sécuriser la population et ses biens. À Beni, Marc Marofimo.
Les 4 communes de la ville de Beni sont touchées par cette recrudescence de la sécurité. En 3 jours seulement, de lundi à ce mercredi, ils ont opéré dans les quartiers Malepe en commune de Béou, en vandalisant même la paroisse catholique de la place. Ils ont également cambriolé plusieurs maisons dans les quartiers Tamende vers l'ouest de la ville ainsi que certaines cellules de la commune de Moulekera. Les responsables de la sous-station de la RTNC Beni en a été victime. Le président des consortiums des confessions religieuses de la ville et territoire de Beni parle des conséquences de l'évasion massive des détenus de la prison de Kangwayi fin octobre. Bishop Janvier Baraka.
La situation que nous sommes en train de vivre actuellement, c'est la conséquence de l'évasion de plus de 1300 prisonniers à Kangwayi. Que l'autorité puisse prendre ses responsabilités.
Préoccupée, la société civile urbaine demande au comité urbain de sécurité de mettre toutes ses batteries en marche afin que les enquêtes soient diligentées pour mettre la main sur les auteurs de ces actes. Kizito Binhangi.
Les services de sécurité, ici nous voyons la police, doit nous aider à diligenter les enquêtes pour dénicher découvrir les auteurs de ces barbaries pour que ces auteurs soient déférés devant la justice.
Pendant ce temps, la police dit avoir ouvert des enquêtes pour mettre la main sur les auteurs de ces actes de sécurité. Elle souligne même que certains suspects sont déjà aux arrêts. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
En Ituri, pendant 7 ans, 9 présumés miliciens Maïmaï sont condamnés à la servitude pénale à perpétuité et 4 autres sont libérés par insuffisance de preuves. C'est le verdict qui a été prononcé hier mardi après-midi par le tribunal militaire. Au mois de juin dernier, ces miliciens ont attaqué le personnel de l'équipe de riposte contre la maladie à virus Ebola dans le territoire de Mambasa. Des audiences foraines ont été organisées sur place grâce à l'appui de la MONUSCO, du PNUD et de l'ONG Avocats sans frontières. Le compte-rendu d'Ezekiel Mouzalia.
C'est au mois de septembre 2019 que ces miliciens Mai Mai avaient tendu une embuscade à l'équipe des agents de la riposte contre la maladie à virus Ebola. Une attaque qui a coûté la vie à 3 personnes avec d'importants dégâts matériels enregistrés. Les auteurs de ces actes ont été arrêtés à la suite de la dénonciation faite par l'une des épouses de ces Mai Mai auprès des services de sécurité. Ces personnes sont poursuivies pour crimes de guerre par meurtre, destruction méchante et participation association à un mouvement insurrectionnel. Le tribunal les condamne à une peine de servitude pénale à perpétuité et au paiement d'une somme allant de 150 à 4000 dollars américains. Ce montant est destiné à indemniser 30 personnes victimes de cette attaque. Après le prononcé du jugement, les avocats de la défense ont promis d'interjeter appel, signalant que ces procès s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre l'impunité, a déclaré le major Vicky Lopombo, auditeur militaire garnison de l'Ituri. Bounia, Ezekiel Muzalia, Radio Okapi.
Autre nouvelle, la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit du lundi à hier mardi sur la cité de Lukula, un territoire portant le même nom, a provoqué le débordement de la rivière Lufiku. Le coordonnateur de la société civile locale affirme que ce débordement de la rivière a causé d'importants dégâts matériels et humains. Firmin Mananga précise que les familles dont les maisons ont été détruites passent la nuit à la Belle Étoile et qu'aucune prise en charge n'est envisagée. Il appelle les autorités à aider les sinistrés. Il est au micro de Nana Plurich Mambou.
Cette inondation a eu lieu la nuit du lundi au mardi 10 novembre 2020. Bilan provisoire, 126 ménages ont perdu leur maison et leurs biens de ménage, dont 756 sinistrés. Conséquence, quelques familles ont été accueillies dans des maisons de voisins, d'autres chez leurs membres de famille. Les 75% du reste vivent à la Belle Étoile. Aucune prise en charge n'est encore enregistrée jusque-là. Nous signalons aussi qu'il y a deux écoles privées qui ont été endommagés en perdant des toitures. Une école publique a perdu presque tous ses documents scolaires suite aux eaux qui ont pénétré dans le bureau. Au point de vue écologique, rien que la cité de Lukula enregistre des plaintes des jardiniers qui viennent de perdre tous leurs jardins qui longent le long de la rivière Lufiku. Il a été enregistré un cas de noyage d'un wewiste dans l'agglomération de Mwenge. Nous recommandons aux autorités, tant provinciales que nationales, d'en tenir compte de ce SOS pour trouver des solutions par rapport au curage de la rivière Lufiku. C'est chaque année que ce problème tombe. Les conséquences de cette année sont extrêmement néfaste.
L'administrateur du territoire de Lukula dit avoir identifié les familles sinistrées. Alphonse Mwakasa leur a demandé de quitter les lieux du drame afin d'éviter les maladies. Il assure avoir fait rapport à la hiérarchie et il attend la réaction. Revenons au Nord Kivu un instant où une foudre a fait au moins 5 morts et 5 blessés hier mardi après-midi à Walikale Centre, au chef-lieu du territoire du même nom. Selon des sources locales, la plupart des victimes sont des femmes et des enfants. À Goma, le récit de Bernard Denyangui.
Ce drame est intervenu autour des 16 heures locales hier mardi pendant qu'il pleuvait dans le quartier Nyalusukula au chef-lieu du territoire de Walikale. Les personnes tuées sont deux fillettes et trois femmes adultes, indiquent les sources sur place. Elles précisaient que toutes ces victimes sont décédées sur le coup alors que les 5 blessés, eux, sont actuellement en soins dans l'hôpital de référence de Walikale. Les 10 victimes de cette foudre sont de familles différentes. Deux sont des jeunes fiancés dont le mari est blessé alors que la fille, elle, est décédée. Pour le bourgmestre de la commune rurale de Walikale Centre, c'est la deuxième fois qu'un tel drame a lieu dans le même quartier de Walikale après celui de la fin de l'année dernière qui avait fait 2 autres victimes, toutes des enfants. Monsieur Placide Moba Malassi affirme que le rapport a été transmis au commissariat provincial en charge des questions humanitaires pour trouver une assistance aux familles sinistrées. Goma, Bernard Dengangi, Radio Kapi.
Et puis des organisations de la société civile du Kasaï s'inquiètent des conditions des traversées sur la rivière Kasaï depuis que le pont s'est effondré. Le cadre de concertation de la société civile de Chikapa affirme que les habitants qui doivent se déplacer d'une rive à l'autre de la rivière sont obligés d'utiliser des pirogues, ce qui pose des problèmes de sécurité notamment pour les enfants. Le gouverneur de la province du Kasaï assure pourtant que 2 embarcations ont été louées pour assurer une traversée sécurisée. À Kananga, une correspondance de Joël Bofengo.
L'effondrement du pont Kasey en octobre dernier complique les déplacements dans la ville de Chikapa. Tous les matins, employés, commerçants, élèves et étudiants habitant la commune de Kele sont obligés de trouver un moyen pour traverser la rivière et s'y rendre au centre-ville. Le secrétaire exécutif du cadre de concertation de la société civile de Chikapa, Edi Mbonge, révèle que ce sont les pirogues qui sont utilisées pour assurer cette traversée.
Ils traversent par pirogue. Hein. Ce sont les individus qui ont mis sur pied leurs pirogues qui font traverser. C'est une situation vraiment difficile. Qui risque d'aboutir à des naufrages et à beaucoup d'autres situations qui ne sont pas acceptables.
Actuellement à Kinshasa, le gouverneur du Kasey affirme pourtant que son gouvernement avait déjà pris des dispositions pour permettre une traversée sécurisée des personnes. À en croire Dieudonné Piémé, deux embarcations sont louées pour assurer les transports des personnes.
Je vous confirme que les embarcations louées par le gouvernement provincial sont bel et bien opérationnelles. Moi-même, je ne suis pas à Chikapa maintenant, je ne peux pas affirmer que ce que vous dites, ces personnes disent là, est vrai. Maintenant, si vous me dites qu'il n'y en a pas et que vous en avez des preuves, sur votre dénonciation, je vais faire vérifier ça par mes services.
Après l'effondrement du pont Kasey, les opérateurs économiques avaient attiré l'attention des autorités sur les conséquences de cet accident sur les activités dans la ville de Chikapa. De Kananga, Joël Bofengo, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Grèce, l'incendie qui s'est déclaré dans les camps des migrants sur l'île de Samos où s'entassent 4000 demandeurs d'asile a été maîtrisé ce mercredi matin sans faire de victimes selon les pompiers. Une enquête a été ouverte à ces sujets. En septembre dernier, le camp insalubre de Moria a été également incendié par des réfugiés en colère, laissant environ 12 700 personnes sans abri. Pendant ces temps, quatre députés pro-démocratie de Hong Kong ont été démis de leur mandat ce mercredi matin après l'adoption par Pékin d'une résolution accordant aux autorités locales le pouvoir de disqualifier tout simplement des élus considérés comme menaçant la sécurité nationale, rapporte l'agence France-Presse AFP. Il y a deux jours, une vingtaine de législateurs de l'opposition ont menacé de démissionner en cas d'exclusion de leurs collègues. Hong Kong a été autorisé par l'un des principaux comités législatifs de la Chine a révoqué tous les législateurs considérés comme une menace à la sécurité nationale sans passer devant une quelconque juridiction.
L'invité.
Pour restaurer la stabilité dans la région de Pinga, un territoire de Walikale au Nord Kivu, il faut une conjugaison d'efforts militaires, mais aussi humanitaires et de développement. C'est ce qu'a affirmé le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, en charge des opérations à l'issue d'une visite à Pinga, à la tête d'une délégation des bailleurs de fonds, y compris l'ambassadeur du Royaume-Uni, du PNUD et la Banque mondiale. David Grisly a reconnu que la MONUSCO, le gouvernement et d'autres partenaires ont encore un grand travail à faire dans cette région. Il s'est entretenu avec Sifa Magrou.
Monsieur Grisly, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez déjà visité Pinga plusieurs fois. Aujourd'hui, vous y avez amené une forte délégation mixte. Pouvons-nous savoir pourquoi?
Well, en fait, nous savons que ce n'est pas seulement une question de une force militaire qui est nécessaire pour rechercher la paix ici et surtout la stabilité. C'est aussi important d'avoir nos partenaires dans le développement et aussi dans l'assistance humanitaire, d'être aussi impliqués dans ce travail. Donc nous sommes venus avec des personnes importantes, surtout de la Grande-Bretagne, qui sont là pour examiner de ce qu'ils peuvent contribuer aussi à la paix, soit ici à Pinga, mais aux alentours, mais un peu partout dans le petit nord.
Alors vous avez eu un briefing avec les militaires, les casquets bleus, vous avez échangé avec différentes couches de la population, les humanitaires. Comment personnellement vous appréciez l'évolution de la situation sécuritaire et humanitaire de la région?
Ça commence à évoluer dans la bonne direction, mais il y a beaucoup de travail à faire. Cette zone reste toujours enclavée, qui empêche aussi l'accès pour la sécurité, pour l'assistance humanitaire, pour le développement. Il y a toujours un manque de services de l'État, comme les écoles, aussi pour la santé. Donc il y a beaucoup de choses à faire pour un retour à une vie normale ici. Même pour aller dans les alentours où il y a toujours des groupes armés, ça pose un problème pour la population, pour aller au champ, par exemple. Donc, nous devons renforcer, à mon avis, notre engagement ici. On doit rester pour la durée et faire un plaidoyer avec nos collègues dans le gouvernement et nos partenaires pour vraiment faire ça ensemble. Mais ce qui est important ici, et ce que j'ai bien noté ici, c'est le fait qu'il y ait un bon esprit de coopération. Et je crois que ça, c'est fondamental. Avec ça, on peut aller plus rapidement et on peut achever des résultats plus durables.
Et qu'allez-vous faire par rapport à toutes les préoccupations, les demandes qui vous ont été présentées, le processus d'EDR, l'encadrement des jeunes, la réhabilitation des infrastructures? Qu'est-ce que cette population peut attendre de vous?
En fait, nous avons discuté avec mon collègue général le problème d'enclavement. On va commencer une reconnaissance de la route qui est la route la plus importante qui mène vers Binga la semaine prochaine pour voir de quoi on peut faire pour ouvrir cette route. Ça va prendre un peu de temps, mais on va commencer le travail ce mois-ci. Donc, je crois que ça, c'est un. Deuxièmement, pour l'aspect DDR, on attend toujours la nouvelle structure par le gouvernement pour la mise en œuvre de ces programmes. Nous sommes prêts. Nous avons le financement, la logistique, aussi les moyens techniques pour aider ce programme. Et une fois que c'est élaboré, formulé et présenté à nous, nous sommes prêts de accompagner ce nouvel processus de DDR. Et j'espère bien que ça va venir très bientôt. En attendant, on va toujours travailler avec les communautés localement. S'il y a des personnes qui viennent, des ex-combattants, qui sont intégrés dans la communauté, j'espère bien que nos projets communautaires vont pas seulement bénéficier la communauté ici, mais aussi ces personnes en même temps. Donc, je crois qu'on peut faire certaines choses dans une manière provisoire en attendant cette nouvelle structure. Et après, on va aller rapidement avec ce processus de DDR.
Alors, pour terminer, quels sont les défis auxquels fait face la MONUSCO actuellement pour pacifier cette région?
Comme pour tout le monde, l'accès est peut-être le facteur le plus important. C'est pourquoi on donne une priorité à ça. Deuxièmement, c'est une zone pas seulement difficile à accéder, mais c'est très montagneuse. Donc, ça aussi pose un problème pour une action militaire. Et aussi, nous ne sommes pas très nombreux. Donc, on doit faire avec le nombre des éléments, des effectifs que nous avons. Merci bien.
Merci beaucoup, monsieur.
Merci bien.
L'invité de Radio Okapi, c'était le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC chargé des opérations. Devin Chrisley était interrogé par Sifa Magrou et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci d'avoir écouté.